Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. J-2 avant les législatives espagnoles qui promettent d'être très disputées. Le nouveau parti nostalgique du franquisme, Vox, compte bien d'ailleurs jouer les troubles fêtes. Il espère un score au-delà des 10% alors que les socialistes sont annoncés largement en tête selon les derniers sondages. Pour l'emporter, les candidats s'intéressent donc de près à l'Espagne rurale dépeuplée, dont le vote a toujours été réparti entre deux grandes formations, les socialistes du PSOE et les conservateurs du Parti populaire. Mais pour les habitants de cette campagne oubliée, l'urgence va au-delà des promesses électorales. Reportage de Diane Cambon dans l'Estrémadure.
C'est jour de marché à Losar de la Vera, un petit village d'Estrémadure de 2800 habitants. Une quinzaine de stands, de la charcuterie ibérique, du fromage de chèvre et beaucoup de vêtements. Pépé, un agriculteur bio, installé depuis 15 ans dans cette région, défend le retour à la terre. Pas n'importe comment. Pour lui, il est devenu urgent de faire entendre la voix de l'Espagne qui se meurt. Un exode rural qui a commencé dans les années 50 et qui s'est prolongé jusque dans les années 70. Le centre du pays, qui va de la Castille à l'Aragon en passant par l'Estrémadure, s'est vidé peu à peu. Dans certains endroits, on ne trouve plus que 2 habitants au mètre carré, une densité comparable à celle de la Laponie ou de la Sibérie.
Pour moi, il est très important que les gens prennent conscience de l'importance du monde rural, beaucoup plus que de l'informatique ou des réseaux sociaux, car on peut se passer de tout cela, ce n'est pas vital, mais tu ne peux pas te passer de ce que produit le monde rural.
Âgé d'une cinquantaine d'années, Pépé n'avait jamais voté jusqu'ici. Or, ce dimanche, il déposera son bulletin dans l'urne. L'urgence de la situation politique l'a aussi poussé à militer. Ce matin, il distribue des tracts pour le parti de gauche Podemos. Quelques passants acceptent la brochure, d'autres préfèrent l'ignorer. Pépé veut rompre avec le schéma traditionnel qui a dominé le monde rural depuis le retour de la démocratie.
La culture politique en milieu rural et dans les petits villages a été dominée depuis toujours par le Parti socialiste et dans certains endroits par les conservateurs. C'est une culture du clientélisme, des réseaux d'amis portés à un niveau maximum. La seule chose qui compte pour les gens, c'est ce qu'ils vont gagner ou ce que va gagner leur famille.
Séduire l'électorat rural, c'est l'objectif des candidats à la présidence. Des suffrages clés sont en effet en jeu. Sur les 350 sièges de députés à pourvoir à la Chambre basse, 101 correspondent à des provinces élisant 2 à 5 députés. Ce sont les régions les moins peuplées, celles de l'Espagne Bassilla, l'Espagne vidée. Durant la campagne électorale, les candidats n'ont pas hésité à poser devant des vaches ou assis sur un tracteur. Mais ces poses bucoliques ne convainquent pas les habitants ruraux, comme le souligne Ana Morillos, porte-parole de la plateforme citoyenne pour sauver Zamora.
Toutes les mesures qui sont annoncées ces jours-ci sont purement électoralistes. Ce sont les partis politiques qui sont d'une certaine manière à l'origine de cette Espagne oubliée. Il y a un intérêt souterrain à planifier le dépeuplement des campagnes. Nous ne voulons pas que nos territoires et l'argent de l'Europe qui est versé pour lutter contre le dépeuplement soient destinés à des projets qui, dans le fond, ne nous intéressent pas, comme par exemple la création de terrains d'expérimentation, d'usines pour le traitement des déchets ou le développement d'une agriculture industrielle 4.0.
Le déclin de l'agriculture est une des raisons pour expliquer le dépeuplement. Antonio, un retraité qui fait également ses premiers pas en politique en choisissant les couleurs du Parti populaire, incite les agriculteurs à un changement de modèle.
Il y a un problème grave auquel va être confronté le monde agricole, c'est celui de la diversification des cultures. Ici, on ne la prend pas au sérieux. Or, nous sommes dans une zone de production de tabac et un jour, cette culture ne sera plus subventionnée. Et il y a très peu de cultures alternatives aujourd'hui. On va être pris à la gorge.
L'autre préoccupation d'Antonio est de freiner l'exode des jeunes, car aujourd'hui, la relève générationnelle n'est plus assurée dans les campagnes.
Chaque fois qu'un agriculteur part à la retraite, ses enfants ne reprennent que rarement la ferme familiale. Ils préfèrent partir à la ville. C'est le grand défi pour tous les candidats. Permettre aux jeunes de travailler, avec des aides s'il le faut, leur offrir des loisirs, de la culture dans les villages pour qu'ils ne s'en aillent pas. Si on ne parvient pas à gagner cette bataille, le monde rural va continuer à se dépeupler Et à moyen terme, cela signifie la disparition des villages.
Face à ces enjeux, le nouveau parti d'extrême droite Vox n'apporte aucune réponse concrète. Et pourtant, en quelques mois, cette formation s'est installée dans quasiment toutes les provinces du pays. Le vent en poupe, ce parti populiste s'est vu obligé à enrôler des candidats à tour de bras. À Lossar de la Vera, la page Facebook de Vox a obtenu 220 amis en quelques semaines. Leur créneau est très simple, redonner de la fierté aux habitants des zones rurales en valorisant les traditions, comme l'explique Antonio.
Vox annonce quatre idées basiques qui séduisent les habitants les plus conservateurs et ceux qui ont le moins de capacité d'analyse politique. Ils parviennent à toucher la fibre sensible du citoyen conservateur en récupérant les traditions et la gloire passée des rois catholiques, de l'empereur Charles Quint et de l'Empire espagnol. Ils sont très nationalistes et patriotiques. Vox défend la chasse et bien sûr la corrida.
Défenseurs de la cause animale et écologistes sont des ennemis déclarés de Vox. Un discours radical de ce parti populiste qui pourrait bien fonctionner. Selon les derniers sondages, Vox obtiendrait 10% des voix aux élections présidentielles, suffisamment pour faire basculer le Parlement à droite.
Le 9 avril dernier, un avion de chasse japonais s'est abîmé en mer du Japon. Un chasseur F-35 de conception américaine considéré comme le plus abouti à ce jour. Le lendemain du crash, les débris de l'appareil ont certes été récupérés à la surface, mais l'épave, elle, n'a toujours pas été retrouvée. Et c'est bien l'enjeu. Bonjour Étienne Bouche.
Bonjour Catherine.
Alors vous êtes notre correspondant en Russie. L'épave ferait depuis l'objet d'une course-poursuite hautement stratégique.
Effectivement, selon des experts militaires, c'est ce qui se jouerait actuellement en mer du Japon. L'objectif, être le premier à retrouver dans les profondeurs cet appareil ultra sophistiqué à la conception évidemment secrète. Les Japonais et leurs alliés américains ont pour cette raison tout intérêt à retrouver l'épave avant que des grandes puissances militaires comme la Chine ou la Russie mettent la main dessus. Bien sûr, il est probable qu'après le choc et des semaines au fond de l'eau, le chasseur ait subi de forts dommages, mais en récupérer ne serait-ce que quelques pièces peut avoir une importance stratégique capitale pour en comprendre la conception et, si possible, la reproduire.
Parmi ces protagonistes en concurrence, il y a la Russie. Dans le domaine de la défense aérienne, quelle place occupe-t-elle dans ce rapport de force mondiale ?
La Russie bénéficie d'une expérience acquise par le complexe militaro-industriel soviétique et au cours des 10 dernières années, des efforts significatifs ont été entrepris pour moderniser l'armée. Cela s'est traduit notamment par l'acquisition de nouveaux appareils et de systèmes de défense anti-aérienne. À ce sujet, je vous propose d'écouter Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe basé à Moscou.
Tout le monde a plus ou moins entendu parler des fameux systèmes anti-aériens S-300, S-400. Ce sont effectivement des systèmes qui sont assez uniques, dont seuls les Russes ont le secret et la maîtrise, qui sont assez complexes avec des algorithmes, enfin des choses comme ça, que les Russes exportent avec parcimonie, puisque ce sont quand même des systèmes qui sont pas anodins et surtout qui témoignent lorsqu'ils sont exportés d'une densité politique et d'un véritable partenariat stratégique dynamique entre la Russie et le client qui pourrait se procurer ce type de système. Donc aujourd'hui, ce sont des systèmes qui ont été vendus pour les S-300 aux Égyptiens par exemple. Il y a de très bonnes relations entre la Russie et l'Égypte. Aujourd'hui, il y a des négociations, enfin des discussions assez avancé entre les Russes et les Turcs pour vendre à la Turquie des S-400, et les Chinois, évidemment, pour rebondir sur votre question, qui ont également acquis des systèmes S-400. Donc je dirais que sur la défense anti-aérienne, un peu comme sur l'aviation, il y a des niches d'excellence que la Russie conserve encore aujourd'hui, avec une relative parité avec les Américains.
Alors la fiabilité de ces systèmes de défense anti-aérienne est fondamentale, car en situation de conflit, elle empêche l'adversaire d'accéder à la suprématie aérienne. Les précisions d'Igor Delanoé.
Lorsqu'on regarde en gros les dernières interventions armées des États-Unis, mais l'OTAN aussi de manière générale au cours des 20-25 dernières années, on remarque que les États-Unis et l'OTAN interviennent toujours lorsqu'ils sont en situation de suprématie aérienne. C'est-à-dire d'abord, ils cherchent à acquérir la maîtrise totale et absolue de l'espace aérien avant d'envisager d'aller plus loin sur des opérations, que ce soit au sol comme on a pu voir en Irak par exemple. Ça passe par détruire les forces aériennes de l'adversaire, ça passe par détruire construire des systèmes de défense anti-aérien de l'adversaire. On a pu voir ça dans les Balkans dans les années 90, en Irak encore en 2003, en Libye. Donc évidemment, avoir une suprématie aérienne, dans ce contexte-là, évidemment, c'est un atout considérable. Et l'effort des puissances, je dirais, concurrentes comme la Russie et la Chine, à l'inverse, c'est de chercher à entraver cette liberté de manœuvre dans l'espace aérien avec des systèmes de défense anti-aérien puissants comme les S-300, S-400, et maintenant les Chinois ont des S-400 que les Russes leur ont livrés, avec des missiles anti-navires très puissants là aussi, donc des batteries côtières. Là aussi, on connaît savoir-faire des Russes avec des missiles, des batteries comme Bastion par exemple, et des missiles supersoniques, pour pouvoir frapper dans la profondeur et de manière très très violente et soudaine des navires, par exemple, qui pourraient se livrer à ce type d'opération de frappe. Donc oui, la suprématie aérienne est un véritable enjeu, jusqu'à aujourd'hui encore, pour les opérations des États-Unis et de l'OTAN.
Depuis 2015, l'armée russe a montré en Syrie de quoi elle était capable. Si l'on compare avec le bref conflit russo-géorgien de 2008, de nettes améliorations ont été constatées. Les études d'opinion révèlent d'ailleurs que l'armée est l'institution dans laquelle les Russes ont aujourd'hui le plus confiance.
Étienne Bouch, notre correspondant en Russie. À bientôt, Étienne. La guerre du Kosovo en Albanie, ce conflit s'est inscrit dans les mémoires. Alors qu'on commémore les 20 ans des bombardements de l'OTAN, les Albanais se souviennent que malgré les grandes difficultés qu'ils subissaient alors, ils ont accueilli de nombreux cousins réfugiés, l'occasion de grandes retrouvailles. Louis Seyé.
En Albanie, la guerre du Kosovo est ancrée dans la mémoire, notamment dans le nord-est du pays, la région frontalière. En 1999, l'Albanie était alors elle-même dans une situation très délicate. Après l'effondrement de son système financier, le pays a connu plusieurs mois de troubles lors de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre civile albanaise. Malgré des difficultés économiques extrêmes, les citoyens albanais accueillirent alors près d'un demi-million de leurs cousins kosovars. L'occasion de retrouvailles entre Albanais après plus de 50 ans de séparation pendant la guerre froide. En mettant fin aux exactions serbes, les bombardements de l'OTAN ont également renforcé les liens des Albanais avec les États-Unis. Une amitié ancienne qui remonte au début du XXe siècle lorsque le président américain Woodrow Wilson défendit l'indépendance du nouvel État albanais. L'Albanie évita ainsi de voir son territoire découpé en faveur de la Grèce et de l'Italie. Avec la dictature stalinienne de Enver Hoxha, les États-Unis restèrent le grand ennemi de la classe ouvrière albanaise jusqu'en 1991. Depuis, le rêve américain a fait son chemin dans la société albanaise et selon plusieurs sondages, les Albanais du Kosovo et d'Albanie font partie des pays les plus américanophiles au monde. En 2007, le président George Bush fut ainsi reçu en grande pompe à Tirana, où une rue du centre porte aujourd'hui son nom. Le gouvernement albanais a plusieurs fois proposé aux Américains d'ouvrir une base militaire dans le pays. Un soutien sans faille, marqué par l'adhésion de l'Albanie à l'OTAN en 2009. Cette relation connaît aujourd'hui un nouvel élan. Kutchov, l'ancienne ville de Staline, dans le centre du pays, devrait recevoir 51 millions d'euros de l'Organisation Atlantique. La vieille base soviétique sera ainsi transformée en une station de ravitaillement pour les jets de l'OTAN. Des travaux qui devraient commencer dans les prochaines semaines.
Musique. Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous faites revenir 50 ans en arrière avec le rock psychédélique de jeunes néerlandais d'origine turque.
Deux ans seulement après sa formation à Amsterdam, le groupe Altingun connaît un succès tout à fait inattendu que son nouveau disque devrait confirmer. Altingun, souvenez-vous, on avait suivi dans Accent d'Europe les premiers pas de ces jeunes musiciens hollandais, pour certains d'origine turque, qui se sont donnés pour mission de réinventer le folk et le rock psychédélique turc des années 60 et 70, cet âge d'or où nombre d'artistes associaient morceaux et instruments traditionnels à des sonorités occidentales. Paru l'an passé, On était donc un album de reprise. C'est encore le cas de son successeur, Gessé, qui paraît aujourd'hui et fait à nouveau la part belle aux chansons de Neset Ertas, grand nom du folk turc disparu en 2012, avec ce titre par exemple, Vay Dunia.
Altin Hun avec son titre Vaï Dunia. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation et à la mise en onde, bien sûr, Françoise Grelot. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Juliette Rangeval et Frédéric Lebel.